Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Bastien Valency, le fondateur de Cabaya, le créateur d'accessoires ingénieux et durables. J'adore.
Merci. Bonjour Alice, merci de m'inviter.
Salut, je suis ravie de te recevoir. En plus, j'ai pas pris le bon sac, mais moi j'ai le sac, le bonnet, le...
Ah ouais,
j'ai
la totale, j'adore. Ah oui, j'ai pas vu. Ouais.
Non, j'ai juste rien pris, forcément.
Très
toujours,
bien.
Toujours la tenue adéquate. Mais je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte parce que ça fait longtemps que j'ai pas reparlé de mode, tu vois. Et c'est quand même un sujet qui fait débat, la mode.
Bien
clairement,
sûr.
Ça reste un... C'est pas un des biens... Tu sais, là, en ce moment, on a le débat sur l'énergie, la mobilité, etc. Mmh. Et c'est presque des besoins fondamentaux. La mode, on se dit, c'est un accessoire. En plus, toi, tu fais de l'accessoire de mode, tu vois.
Exactement.
Et donc, c'est un sujet que j'ai envie d'aborder avec toi parce que j'ai vu qu'en plus, tu avais été certifié B Corp. Il y a combien de temps ?
3 mois, c'est tout récent.
Ah ouais, et ça engage à quoi ? Tiens, on va en parler un peu parce que je
ça engage à pas mal de choses. C'est surtout très complexe et long à avoir. Tu vois, c'est 2 ans de travail, 1 an d'attente, B Corp. Donc,
1 an d'attente ?
Ouais.
Mais genre, ils font quoi pendant 1 an ?
Audit. Et en fait, il y a tellement de monde qui veulent être labellisé B Corp. Il y a aussi beaucoup de gens qui candidatent et qui n'ont pas forcément la bonne note et qui attendent. Et donc, du coup, ils perdent pas mal de temps et tu as énormément de candidats qui fait que c'est pas un label qui est voué à devenir une multinationale, B Corp. Du coup, c'est une petite équipe restreinte et ils ne veulent pas être 10 000 dedans demain. Ce qui fait que comme il y a énormément de marques tous les jours qui veulent être labellisées, le temps d'attente est de plus en plus long. Il y a 3 ans, 4 ans, c'était beaucoup moins connu, B Corp. Tu pouvais attendre 1 mois et passer. Là, maintenant, tu as tellement de marques qui veulent le devenir parce qu'il y a une vraie conscience auprès de toutes les marques, comme quoi c'est hyper important et c'est le label le plus exigeant. Donc, en gros, nous, notre réflexion, ça a été si on veut faire partie des marques qui respectons les prérequis les plus élevés, allons devenir B Corp. C'est ce qui va nous permettre d'être au niveau le plus élevé en termes d'exigence éco-responsable.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur sait ce que c'est que B Corp ?
Très peu.
Voilà,
c'est ça le problème.
C'est ça,
très peu.
En fait, finalement,
clients,
c'est pas un outil marketing pour toi.
Pas du tout,
toi,
puisque
c'est presque
notre chiffre d'affaires
n'a
pas bougé. Enfin, c'est pas, on annonce on est B Corp et le lendemain, notre chiffre fait x2.
Non, mais c'est bien de
la plupart
le dire,
de nos clients ne savent pas ce qu'est B Corp. Et d'ailleurs, notre rôle, c'est de les éduquer. C'est pas de leur dire, regardez, on est B Corp, achetez chez nous et pas en face. Mais c'est plutôt les éduquer, à leur dire, voilà comment on a réussi à l'aide, voilà ce qu'on fait de bien, voilà ce qu'on pourrait faire de mieux, parce qu'on n'a pas, tu veux, B Corp, c'est un système de notation, tu as 180 points. Pour être B Corp, faut avoir au moins 80, on est à 92.
C'est bien, tu as de la marge de... Non, mais c'est cool. Moi, je trouve ça bien, je trouve ça
d'amélioration,
hyper encourageant, justement.
C'est l'esprit de B Corp, tu vois, c'est de créer...
Et il y a un accompagnement.
Et il y a un accompagnement, et surtout ta notation, tu as beaucoup de labels assez bullshit qui ont été créés ces dernières années, hein, il faut se le dire. B Corp, tu l'es, mais tu ne le restes pas forcément. Si tu veux le rester, tu dois être au niveau, chaque année, tu dois te mettre à niveau et tu dois montrer une évolution. Donc, c'est le but de B Corp, ce n'est pas dire « Ah, ça, c'est mal, donc tu n'es pas B Corp ». C'est de dire « tu as un minimum exigible, ok, tu es au-dessus, donc tu peux rentrer, et maintenant, tu vas nous montrer que tu t'améliores chaque année ». Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que ce n'est pas un label où tu fais un chèque, tu poses un tampon sur ta marque et tu dis « moi, je suis engagé ». Non, tu dis « ok, j'ai répondu à toutes les normes minimum et maintenant, je m'engage à m'améliorer ». Et c'est ça qui est hyper intéressant. Tu as une communauté qui est de plus en plus grande et on est poussé à s'améliorer chaque année. C'est un peu ça le concept de B Corp.
Et toi, qu'est-ce que tu penses qui a fait ta force pour obtenir ce label ? Tu as calculé ton empreinte carbone,
bien
j'imagine,
sûr, ouais.
tout
ouais.
ça. Et je ne sais pas, qu'est-ce aujourd'hui, si j'achète par exemple chez toi, mon produit, il est made in France.
Non, on n'avait pas Made in France. Non, toute notre maille est faite en Pologne, nos chaussettes sont faites en Turquie et toute la maroquinerie est faite en Asie.
D'accord.
Et nous, notre sujet, tu vois, sur l'éco-responsabilité, et c'est ce qui a fait, je pense, notre force aussi, ce qui a fait qu'on est Bicorp, c'est qu'il faut vraiment décomposer toutes les facettes de l'éco-responsabilité.
Mais bien sûr, c'est pour ça. En fait, le Made in France, d'ailleurs, souvent, c'est... Enfin, désolé pour les vraies marques engagées Made in France. Et voilà, et d'ailleurs, c'est souvent très, très cher de rester Made in France, mais ça peut être beaucoup, vraiment bullshit aussi.
Bien sûr.
Parfois, il y a des trucs qui sont assemblés en France et du coup, ils mettent Made in France.
C'est surtout, ce n'est pas le principal sujet. Il ne faut pas oublier que l'industrie textile, c'est la troisième la plus polluante au monde. Le fait de fabriquer en France réduit ton empreinte carbone sur le transport. Mais nous, notre transport, tu vois, c'est 5% de nos émissions carbone. Donc, en fabriquant à l'autre bout du monde, si tu fabriques au coin de ta rue, tu économises 4,5% sur ton empreinte carbone. Notre vrai sujet chez nous, c'est la durabilité produit. En fait, on essaye de démontrer, et de manière scientifique, hein, pas se dire, moi, ma philosophie, c'est ça. C'est de manière scientifique, il faut 10 fois mieux acheter un produit fait en Asie plutôt que 2 produits faits en France. Si tu peux acheter un produit fait en France, c'est encore mieux. Tu vas en avant. Mais le vrai sujet aujourd'hui sur l'éco-responsabilité dans l'industrie textile, c'est la surproduction, surconsommation. Dans un second temps, si en plus on arrive à produire très proche de chez nous, c'est encore mieux parce qu'on réduit l'impact transport.
Mais à bien rémunérer aussi ceux qui produisent, c'est hyper important.
Exactement. Et surtout, aujourd'hui, en fait, nous, fabriquer en France ou en Europe, c'est bien évidemment ce qu'on aimerait et ça résolverait 98% de nos problèmes. Sauf qu'on a fait, on a posé l'équation, on s'est dit, OK, on va fabriquer en Europe. Le sac coûterait 4 fois plus cher. Sachant qu'on a un savoir-faire qui est moins élevé qu'en Asie, puisque c'est un pays industriel et qui est né comme ça, ce sac, le même sac est de moins bonne qualité, il serait vendu 250 euros. Un sac à dos, 250
Personne
euros,
pour, ouais.
Alors tu t'adresses à une élite, il y a des gens qui peuvent acheter 250 euros un sac à dos, il y a des gens qui achètent 10 000 euros, mais tu t'adresses à une élite, et cette élite, c'est 0,1% de la population, qui en général, ces 0,1% sont les plus éduqués sur ces sujets environnementaux. Donc en fait, si tu proposes un produit aux 0,1% qui sont déjà éduqués, quel impact tu as eu ? Pas grand-chose. Alors que si tu regardes la marque textile la plus éco-responsable sur la planète, c'est qui ? C'est Patagonia. Patagonia fabrique tout en Asie.
J'allais te le dire, oui.
Tout en Chine, Vietnam, Inde. Pourtant, ils sont les plus hauts sur le score Bicorp. C'est les plus activistes, les plus éco-responsables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris depuis très longtemps que le sujet, ce n'était pas le made in. C'était faire travailler les gens dans les bonnes conditions, les payer à des bons salaires et surtout éduquer la population à ne pas surconsommer.
Et justement, j'allais te demander, ça c'est vraiment une de mes questions, comment aujourd'hui toi, en tant que marque, tu arrives à sensibiliser. Pour moi, les marques ont un rôle à jouer. Il y en a plein qui disent, non, les marques doivent juste s'adapter. Absolument
non,
pas.
Non.
La marque doit incarner, doit inspirer. Quand on va acheter, justement,
et éduquer,
justement. Mm-hmm. Comment tu fais ?
Tout simplement, nous, le sujet, c'est durabilité. Donc, notre plus gros claim, c'est garantie à vie. Un peu comme un Patagonia, tu vois, il y a la garantie absolue. Eux, ils ont garantie absolue. Nous, c'est garantie
à vie. C'est des grades, tu sais. Alors, moi, je suis...
Ouais, alors, c'est pareil. Enfin, ils l'ont appelé absolue, mais c'est garantie à vie. C'est-à-dire que... Il pousse à, t'as un trou dans ton t-shirt, ne va pas racheter un autre t-shirt, qui est le modèle de l'industrie textile des 15 dernières années. C'est, on fabrique un produit de qualité basse ou moyenne, pour que, d'ailleurs textile ou même high-tech ou autre, on va fabriquer un produit dont on sait que la durée de vie est faible, pour qu'il reconsomme très rapidement et rachète un nouveau t-shirt, une nouvelle machine à laver, télé, téléphone, etc. Le sujet de Patagonia qui est le nôtre, c'est non, nous on va fabriquer des produits garantis à vie. Vous avez le moins de soucis dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, bah vous revenez, on va vous réparer le produit, il va repartir pour un cycle de vie. Donc nous aujourd'hui...
En magasin
ou internet, peu importe. Okay. L'idée c'est que le chemin soit le plus facile possible. Parce que tu as aussi garantie à vie, ah ouais, mais il faut que j'envoie un recommandé qui doit être validé, j'attends 3 semaines, etc.
D'où les soucis de consigne en général.
Exactement.
Ça c'est un vrai sujet.
Et le vrai sujet, c'est de faciliter l'accès au retour et à l'échange pour que ça devienne naturel et normal de ne pas jeter un produit pour en racheter un autre, mais plutôt de se dire « Ah bah ça fait 5 ans, il est usé, je vais le ramener chez Cabaya, il va me le réparer. »
Comment, parce que là, il y a toute une forme aussi de confiance envers le consommateur, comment tu juges qu'il n'y a pas de l'abus, tu vois ? Parce que c'est hyper...
Tu fais confiance au consommateur et tu sais que 3%, alors je dis 3%, mais c'est peut-être 5, c'est peut-être 1, c'est peut-être 10, vont te flouer. Donc en gros, mon fils a mis un coup de cutter dans ma bretelle et tu vas me dire que c'est un défaut. Ok, donc là, ton choix, c'est quoi? C'est de défier chacun de tes clients en disant, bon, alors vous allez me prouver que ce n'est pas votre fils ou votre chien qui a mordu dedans, etc. Donc, ah bah non, là, je ne suis pas d'accord, en fait, je ne change pas le produit. Du coup, bah, tu dévalorises complètement l'image de ta marque, tu baisses l'impact de ta garantie à vie, parce que le client dont le fils a mis un coup de cutter, ou un chien, ou peu importe, tu vas forcément... mettre un énorme frein à ton discours, dans le sens où il va dire à tous ses amis, bah, en fait, leur garantie à vie, elle n'est pas valable. Regarde, j'ai essayé de le changer.
Et je pense que tu pars de principe que quand tu as une marque responsable, tes consommateurs sont responsables vu qu'ils viennent chez toi. Donc, en fait, tu leur fais confiance un
exactement.
Peu.
Exactement. Et même si 3% ne jouent pas le jeu, ce n'est pas grave. Si tu as eu un impact sur 97%, ce n'est pas très grave. Donc, notre volonté, c'est
la
ça. C'est surtout pas de dire, alors pour que je vous répare votre sac, il faut rentrer dans telle condition. Montrer la photo, le machin. Bon, en fait, ce n'est pas une vraie garantie à vie. Vous me garantissez quelque chose. C'est une assurance, en gros. Je sais que quand je la prends, j'ai une chance sur 100 de pouvoir être éligible à cette assurance et 99 de pas l'être. Là, c'est l'inverse. C'est tellement de sujets, on ne vous pose pas de questions. Effectivement, il y a un trou, il y a un problème de zip ou quoi que ce soit, on le change. Et du coup, même la personne, on a déjà eu, tu vois, peut-être qui teste en magasin, qui dit, tiens, mon fils a mis un coup de cutter sur mon sac. Tiens, ils ont dit garantie à vie, je vais aller le changer. Ils arrivent en boutique en se disant, je vais me faire envoyer bouler. Et on dit, pas de souci, on le change tout de suite. Et là, ils sont tellement impressionnés que déjà, ils se sentent limite un peu mal à l'aise en se disant, en fait, tu vois, c'est hyper carré. Et puis, ils vont en parler à 10 personnes autour d'eux. Tu vois. Ils vont dire, franchement, leur garantie à vie.
Moi, je crois vachement dans la bonne énergie, donc je te rejoins complètement. J'ai une question plus business, mais qui est importante, puisqu'on a beaucoup quand même de cadres qui nous écoutent. Tu me dis, on fait du durable. Donc, on veut que les gens gardent les produits plus longtemps. Donc, ils disent, gardent les produits plus longtemps. Il y a moins de renouvellement d'achat. En plus, toi, tu les répares. Donc, on est jusqu'au max. On est au climax du truc.
Ouais.
Comment tu fais pour continuer à vendre? En fait, ton objectif, c'est toucher davantage de monde.
Bien sûr.
Et qu'en fait, c'est un ou deux produits de chez toi qui durent toute leur vie.
Exactement. Et peut-être même 10 produits de chez moi, mais que des produits dont ils ont besoin. En fait, l'essence même de la marque, c'est qu'on est créateur d'accessoires ingénieux, durables.
Et cool. Parce que moi, je sais que...
Cool aussi.
Non, mais il y a un truc... Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde, alors moi aussi d'ailleurs, a un sac cabaya ou un bonnet.
Cool, oui, et c'est gentil de le dire,
mais
c'est subjectif.
Oui, c'est vrai.
Alors qu'ingénieux durable, c'est très objectif. Et en fait, le sous-jacent à ça, c'est de se dire, on ne va pas produire des produits dont les clients n'ont pas besoin et dont les autres marques font très bien. Par exemple, un t-shirt, je prends souvent l'exemple du t-shirt, on ne fera jamais un t-shirt blanc avec un logo bleu. Pourquoi ? Parce que toutes les marques font du t-shirt, elles font très bien, et plein de t-shirts de bonne qualité, des bons designs. Donc en fait, si Cabaya sort un t-shirt demain, tous les fans de Cabaya vont en acheter un parce que c'est un Cabaya, et là tu nous pousses à surproduire et tu les pousses à surconsommer. En fait, ils ont déjà 10 t-shirts de 10 marques différentes qui font très bien le job et qui ont des bonnes qualités, et nous on va en rajouter un 11e alors qu'ils n'en ont pas besoin, mais comme ils aiment la marque, ils vont acheter un 11e t-shirt.
Et comment tu arrives à mettre un critère sur un, parce que là tu vois, on parle de sac de bonnet. Comment tu te dis, tiens, ça, c'est pas un truc en plus, ce sera le truc.
En fait, on co-crée tous nos produits avec les clients. En fait, le t-shirt, peut-être qu'un jour, on fera des t-shirts, mais si on le fait, c'est que nos clients nous disent, il y a un truc chiant sur le t-shirt au quotidien, avec les manches, la transpiration, la matière, je sais pas, peu importe, ils nous disent, il y a un problème. Nous, on a une solution avec une petite ingéniosité. Alors, attention, on n'invente pas des fusées, et on ne se prend pas pour qui on n'est pas.
T-shirt fusée. le t-shirt qui t'emmène dans l'espace.
Mais on va trouver, si on arrive à trouver la petite ingéniosité qui règle ton petit problème au quotidien, là, on va le sortir. Parce qu'effectivement, tu as déjà 10 t-shirts chez toi, mais le 11e, ils ont ces 10-là un petit problème, et le 11e, nous, on est là pour en faire un qui va être ultra durable, qui va être garanti à vie, et parce qu'on aura trouvé une petite ingéniosité. Donc ça, on le ferait. Mais la plupart, enfin quasiment toutes les marques des 10-15 dernières années, commencent souvent sur un monoproduit, ont un premier succès, et après ont des problématiques de repeat business, donc se disent, maintenant, j'ai une ADN street, premium, bas de gamme, haut de gamme, peu importe, et du coup, je vais faire tout le vestiaire homme, femme, enfant, donc je vais faire des t-shirts, des pulls, des chaussettes.
Toi, c'est unisex en plus.
Moi, c'est unisex, unitaille. Donc, ça répond un peu à ta question du début, mais d'un point de vue business, tes clients ne reviennent pas, ça te pose un problème. Alors, déjà, ils reviennent parce qu'on ne fait pas qu'un seul produit, on fait peu de produits qui ont à chaque fois une petite ingéniosité. Donc, ils reviennent peut-être moins qu'un Zara ou un H&M, ça, je te le confirme. Mais ils reviennent quand même. Et surtout, notre cible est ultra large. Parce que si tu as une cible très restreinte, de parisiens trentenaires CSP+, comme beaucoup des marques des 15 dernières années, bah effectivement, tu arrives très vite à saturation. Et derrière, bah, comment tu fais de la croissance? Tu peux pas.
Et
parce
c'est
qu'ils
le prix aussi qui aide, tu penses, à élargir?
Ton prix doit être aussi suffisamment mass market. Pourquoi on ne fabrique pas au Portugal? Parce que, comme je le disais, notre sac à dos serait à 250 euros. Et dans ce cas-là, ta cible, forcément, elle se restreint énormément. Donc, très vite, tu arrives à un plafond. Déjà, tu n'éduques personne, parce que les gens à qui tu vends sont déjà éduqués sur le sujet. Et en plus, ta cible va être saturée beaucoup plus vite. Et à un moment, on est quand même entrepreneur, on cherche de la croissance, on cherche des solutions. Si tes produits sont garantis à vie, que ta cible est restreinte, a priori, tu vas avoir du mal à faire de la croissance. Et très vite, tu vas plafonner. Et au final, tu n'auras pas d'impact. Pourquoi Patagonia a un énorme impact et est en train de changer toute l'industrie textile et toute la façon de penser? Parce qu'ils font 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier. Ils font 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires. S'ils faisaient 1 million, personne ne les écouterait. Aujourd'hui, ils ont une voix parce que c'est les numéros 1.
Et ça, c'est génial, et c'est très inspirant pour des marques comme la tienne qui sont engagées.
Hyper inspirant,
parce que
hyper important.
On peut y arriver.
Tu as plein de petites marques qui font des choses très bien, tu vois, qui fabriquent en France, qui ont des produits hyper éco-responsables, des matières recyclées, etc.
Mais qui touchent finalement pas.
Sauf qu'ils touchent une cible très restreinte, donc ils ont un chiffre d'affaires très restreint, donc très peu de gens les connaissent. Et les gens qui les connaissent sont déjà très éduqués sur ces sujets-là. Donc, en fait, tu n'inspires personne, tu n'as pas d'impact. Et donc, du coup, tu ne fais pas avancer les choses.
Et tu lances un produit par an?
Entre un et deux, on n'a pas de... Souvent,
mais
oui, c'est
un. Mais tu en lances au moins un.
On lance au moins un en général. Et tu vois, nous, tu vois, par exemple, pour donner un exemple des extrêmes, la fast fashion, un Zara ou H&M, c'est 2 semaines entre le moment où il y a le coup de crayon sur la feuille et le moment où c'est en magasin. Nous, c'est à peu près 1 an et demi entre le moment où on a l'idée, où on se dit « Ok, on va faire un sac, un portefeuille, un bonnet ou une chaussette » et au moment où c'est en magasin. Donc, tu vois, ça montre vraiment la volonté de ne pas se dire « On va sortir 300 produits par semaine pour faire la croissance, les produits seront jetables et ils vont renouveler. » Non, on va prendre énormément de temps pour savoir si nos clients ont vraiment besoin, pour savoir si notre ingéniosité répond à un vrai besoin. Et ensuite, pour le mettre en place et faire en sorte que les matériaux soient suffisamment résistants pour que le produit soit garanti à vie. Parce que notre rôle, ce n'est pas non plus de le changer toutes les semaines. A contrario, si on fait des produits oui, garantis à vie, mais ça ne tient pas et toutes les semaines, on te change ton sac, très vite.
Et justement, c'est presque un gage de votre qualité. Le fait de vous engager sur la réparabilité, c'est de vous dire, en fait, de toute façon, si ça ne tient pas le truc, on est mort dans le film.
C'est clair, on est mort. Et c'est ce qui nous a vachement aidé au début, parce que tu te lances sur un marché sur le sac à dos où tu as déjà plein de mastodons. Toi, tu arrives, tu dis, attends, je ne sais pas si c'est vraiment solide, c'est viable. De toute façon, c'est garanti à vie. Donc, si tu penses que dans 6 mois, ça ne va pas tenir, tu reviens, c'est garanti à vie. Au début, c'est toujours, oui, garanti à vie, mais à mon avis, vous allez trouver le moyen de ne pas me rembourser. Et puis, 6 mois, 1 an, les premiers défauts arrivent, etc. Et tout le monde voit que la garantie à vie est hyper sérieuse, facile à activer et viable. Et puis, ça fait bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'au bout d'un an,
mais tu sais que tu touches... Enfin, moi, ce qui m'a halluciné, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais vraiment te recevoir dans l'empreinte. C'est que moi, tu sais que je suis cliente. Mm-hmm. Mais tu touches toutes les générations. Mm-hmm. Tu vois, je passe devant un lycée pour venir en studio. Et plein de lycéens ont des sacs cabaya. Donc, avant, c'était les ISPAC, tu sais, quand on était jeune. Maintenant, c'est franchement presque autant de cabaya que du reste. Quoi. Enfin, il y en a énormément. Mm-hmm. Et sur le trottoir d'à côté, tu avais des petites grand-mères qui avaient aussi un sac cabaya. Et j'étais en train de regarder des trucs, c'est hallucinant quand même. Enfin, alors qu'avant, tu n'aurais pas vu une grand-mère avec un ice pack quand
bien
même.
Sûr, bien
et
sûr.
Ça, c'est ça, qui, la force est dingue quand même de se dire, mais wow, alors c'est peut-être pas. Je ne sais pas comment tu as fait, mais bravo, parce que je pense que c'est un modèle. En plus, vous êtes assez récent quand même.
Ouais, 2015, ouais, ça fait 7 ans.
Et tu vois, franchement, pour avoir réussi à... Alors après, on est à Paris, donc tu vois, je
m'adresse...
Ouais,
alors ce qui est bien, c'est qu'en province, c'est pareil. Et en fait, la réponse à ça, c'est comment tu arrives à toucher une grand-mère et son petit-fils.
Deux trottoirs, énorme.
Mais c'est la volonté depuis le premier jour, parce que regarde, notre emblème, c'est une paillote de plage, tu vois. Notre logo, c'est une paillote de plage. C'est le symbole le plus consensuel de la planète. Je connais pas une seule personne qui va me dire moi la paillette de plage c'est chiant ou c'est ennuyé ou j'aime pas ça, tu vois.
Si les gens boring.
Et du coup c'est 0,1% de la population. Et c'est
peut-être un peu
grave.
Climato-sceptique d'ailleurs.
Exactement. et du coup on essaye d'être le plus authentique possible et le plus simple possible pour se dire nous on s'adresse, on n'est pas la marque cool des jeunes ou la marque premium des trentenaires. ou la marque de mamie. On est une marque qui s'adresse à la famille, qui ne sont même pas une marque de mode. D'ailleurs, on ne se considère pas comme mode. Tu vois, tous nos produits sont intemporels. Et ce qui nous pousse à... Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de renouveler des collections
tu
tous les mois.
Tu fais pas d'éditions limitées sur des trucs.
On fait certaines petites éditions limitées.
Sur des petites pochettes, quand tu peux pimper les trucs un peu.
Exactement, on en fait un petit peu, de manière à rester bien désirable. Parce que l'idée, ce n'est pas d'être la marque tout bonda et qui n'est pas du tout désirable. Donc, on va faire quelques petites éditions un petit peu limitées pour positionner la marque un peu plus premium. Et toujours, on va essayer de sélectionner un artiste qui a un certain engagement, sur lequel on va avoir des matériaux recyclés ou ce genre de choses.
Cool.
Pour continuer à éduquer. Parce que quand tu vois, tu fais une édition limitée, tu peux avoir un engouement sur un produit. Et du coup, c'est une prise de parole facile pour dire, bah, regardez, cet artiste-là, il a fait tous ces trucs-là qui sont hyper cool. Aidez-le aussi. Et du coup, allez dans ce sens-là. Tu vois.
Et on peut les réparer, nos éditions limitées.
Bien sûr, que ce soit édition limitée ou pas, il n'y a pas de « Ah, ça, c'est garanti, ça, c'est garanti. »
Ça, désolé, c'est limité.
C'est limité, ça n'est pas compris dans la garantie.
C'est quoi tes next steps, tes prochains objectifs? Parce que j'ai l'impression que tu es en hyper-croissance, mais toi, tu as le droit d'être en hyper-croissance. Comment La fille, elle sait combat. Non, mais je veux dire, ça marche bien. C'est quoi tes next steps? T'es à l'étranger un peu ou pas du tout?
Ouais, on est à l'étranger. Bah, l'idée, tu sais, avoir de l'impact, c'est...
Même plus qu'Abaya, c'est pas franco...
C'est pas franco-français du tout. Ça plaît dans le monde entier, puisque depuis le début, la stratégie, c'est on veut créer une marque mondiale et avoir un impact mondial. Patagonia, c'est ce qu'il a réussi à faire, tu vois. Et du coup, on s'intègre très bien et très vite en Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal...
Non, tu restes aux alentours, là, quand même.
Pour l'instant, on est très européens. Et demain...
Mais c'est vrai
qu'en
Italie, j'en avais vu en Italie.
Demain, l'idée, c'est de s'exporter aux US, s'exporter en Asie, puisque il n'y a pas de raison qu'on essaye d'avoir un impact en France ou en Italie, et pas en Asie ou pas aux États-Unis. Tu vois.
Et j'imagine qu'en plus de ça, vous suivez des assauts, il y a des combats que vous menez. C'est quoi d'ailleurs ton combat clé? Parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Celui, on va dire, qui te correspond le plus à la marque.
Alors justement, pour parler un petit peu de combats et des projets, aujourd'hui, on a deux assauts qu'on soutient et à qui on verse des dons tous les ans, c'est la SPA. Donc on est une marque végane depuis le début, entièrement cruelty-free et associée à la SPA depuis l'année 2 à peu près. Donc tous les ans, en fait, on fait une opération, on fait un pack de 3 chaussettes, c'est les inséparables et tous les bénéfices sont reversés à la SPA. Donc on verse plusieurs
tous
dizaines.
Les bénéfices.
Sur ce pack-là et sur cette opération-là, on reverse tous les bénéfices. Plus quand tu prends un selfie avec un produit cabaya et un animal, celui que tu veux, on reverse 1 euro par photo.
On n'est pas obligé de le mettre à l'animal, genre la chaussette.
Non, tu prends une photo pour nous montrer que tu as un bonnet sur la tête, un sac ou ce que tu veux, et avec un chat ou n'importe quel animal. Et tu postes sur nos réseaux sociaux et on va verser 1 euro. C'est le Marty Challenge, on appelle ça. On va reverser 1 euro à la SPA. Ensuite, on a un deuxième engagement depuis un an à peu près avec l'association Sea Cleaners qui nettoie les océans et qui nettoie tous les déchets marins.
Enfin, nettoyer les océans, comme on dit, c'est
compliqué.
Nettoyer
les océans, qui nettoie les déchets marins autour des océans.
Parce que malheureusement, sur les rivages, c'est compliqué de dépolluer les océans.
C'est compliqué de dépolluer l'océan, mais par contre, tu peux nettoyer tout ce qui est autour. Et du coup, on a un engagement avec eux depuis un peu plus d'un an. Et cette année 2023 et les prochaines années, notre gros objectif, c'est de se dire, bon, bah, maintenant, on est Bicorp. On donne de l'argent à des associations, c'est bien. Maintenant, ce n'est pas suffisant. On veut devenir activiste. Et activiste, comment tu fais? Tu mènes des combats de front et tu participes à ces combats. Il ne s'agit pas de juste faire un chèque à une asso. C'est déjà bien, mais on veut aller beaucoup plus loin. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est créer vraiment 3 territoires et 3 combats, 3 axes de combat qu'on n'a pas définis encore et qu'on va définir avec toute l'équipe. Donc, ça peut être les océans, ça peut être la faim dans le monde, ça peut être
Mais justement, c'est pour ça que je te parlais de combats clés, parce qu'en fait, ça peut être tellement de combats.
La répartition des richesses, l'égalité homme-femme.
Donc ça, en fait, c'est un choix avec les équipes.
C'est un choix avec les équipes. On en choisit 3, parce que tu ne peux pas non plus tout faire. Il y en a des milliers, mais à un moment, pour faire bien les choses, il faut sélectionner. Donc, on en sélectionnera 3. Et chacun est libre d'adhérer ou non à un de ces combats. Et l'idée, c'est que Cabaya a été fondée avec 3 parties prenantes, t'as les clients, les salariés et la société elle-même. Et du coup, on veut que ces 3 parties prenantes participent activement à ces combats et financièrement et passent du temps à ces combats-là. Donc financièrement, ils passent du temps. Comment tu fais? Les clients, quand ils achètent un sac à 89 euros, ils auront la possibilité d'arrondir à 90, donner 1 euro pour la saute de leur choix, et Cabaya abondera à chaque fois du double. Si un client donne 1 euro, Cabaya donnera 1 euro en plus. Les salariés, c'est pareil, sur leur fiche de paye à la fin du mois, s'ils veulent réduire l'euro inférieur ou 10 euros, ou ce qu'ils veulent sur leur fiche de paye...
Mais tu fais du micro-don.
du micro-don, mais que Cabaya abondera à chaque fois.
Ça.
Et à côté de ça, une partie des bénéfices de la société entière, donc l'EBITDA de Cabaya, sera reversée à ces trois associations. Donc ça, c'est du financier. C'est encore une fois, on fait un chèque pour aider.
Mais au moins, les salariés s'engagent.
Alors, c'est déjà bien, mais plus que ça, on veut que chaque salarié, qu'il le souhaite, ait une journée par mois où ils pourront passer du temps sur l'association de leur choix, l'une des trois qu'on aura sélectionnées. Et du coup, plus que se dire, j'ai versé 10 euros sur ma fiche de paye ce mois-ci à tel asso, c'est très bien, et Cabaya a abondé 10 euros, super. Mais en plus, moi, j'ai passé une journée dans mon mois à aller sur le terrain. Donc,
je pense qu'en plus, ils auront encore plus envie d'arrondir.
Ils auront encore plus envie parce qu'ils voient que ce n'est pas du bullshit, ce n'est pas du marketing, c'est pas regardez,
c'est pas
on a fini un chèque.
C'est,
j'y ai été, j'ai participé, j'ai ramassé X déchets, j'ai aidé telle femme à s'en sortir, j'ai aidé telle minorité, j'y ai passé du temps. Tu vois. Et donc, du coup, tu t'impliques et la marque, et les clients, et les salariés. C'est notre projet pour dès cette année-là.
Échange riche, hein. On est à la fin du temps. Est-ce que tu as un message à adresser à nos auditeurs ?
Le message, c'est que peut-être personne n'est parfait aujourd'hui et ce n'est pas le but, mais le but, c'est de s'améliorer. Un peu comme on disait, c'est pour ça que le modèle Bicorp est aussi beau. C'est que l'objectif, ce n'est pas de dire toi, tu es bon, toi, tu es mauvais, mais de se dire c'est quoi l'objectif commun et dans quel sens on peut avancer. Le sujet est tellement complexe que malheureusement, tu n'as pas de solution miracle aujourd'hui. Tout le monde le cherche.
Dans aucun des secteurs.
Et l'intérêt, l'objectif plutôt, c'est que chacun cherche à s'améliorer et trouve une solution à son échelle. Toi. Et pas de dire « Ah, ça, c'est mauvais, n'achetez plus ça » ou « Ne faites pas ça, faites ça ». Mais essayer de vulgariser le discours. Je pense qu'un des gros problèmes de l'éco-responsabilité aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, ces discours s'adressent souvent à 0,1% ou 1% de la population. Et on a du mal à éduquer 100% de la population. Et pour ça, il faut vulgariser le discours, il faut essayer de faire comprendre, si tu achètes ce produit-là, voilà l'empreinte que ça a et voilà l'impact que ça a à ton échelle. Toi, une personne, t'as acheté un produit, voilà l'impact. Sans dire, n'achète pas, c'est pas bien. Mais juste lui faire comprendre.
Conscientiser, en fait.
Conscientiser, à partir du moment où tu sanctionnes trop les gens, ça pousse à enfreindre les règles. C'est pas l'intérêt. Mais plutôt l'éduquer de manière très vulgaire, un t-shirt, un produit, un bonnet, une chaussette. Voilà l'impact que ça a. Tu peux acheter en pleine conscience et du coup, essaye de faire en sorte de réduire ta consommation. Est-ce que tu en as vraiment besoin ? Pourquoi ? Essaye de réfléchir un petit peu. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société où on réfléchit souvent de moins en moins parce qu'on cherche à avoir on a de plus en plus de confort. Du coup, on se complaît souvent dans ça. Et l'objectif, je pense, c'est de réussir à réfléchir à comment s'améliorer.
Et montrer que la sobriété rend heureux. En fait.
Oui, en plus, que tu n'as pas forcément besoin.
Sobriété, ce n'est pas juste décroissance et boring, justement. Au contraire,
carrément.
Ça peut... Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. J'étais ravie de t'avoir dans cet épisode.
De même, merci de m'avoir invité.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.